Et pourtant, il y avait eu ce matin où tout devint grisâtre, où quelque chose dérailla pour toujours, où la maison bleu ciel de Santa Fe perdit son éclat de couleur, ses rires, sa cadence harmonieuse, comme le son de la petite chanson qu'elles aimaient chantonner dans le patio à l'ombre de la vigne. Les petites filles s'en allèrent, jamais plus on ne se reverrait. On ne le savait pas encore, mais comment aurait-on pu le deviner ? C'était à la mi-septembre 1974, un an après le coup d'État. Carmen Castillo est ce soir notre invitée à l'occasion de la réédition d'Un jour d'octobre à Santiago. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec du rap chilien. De la primera fila, embestida en rebeldía. Eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Tuene un nie, ni cuf que la ni zumbun. Me le fota el mapu meo en tu en y cuchan caun. Chepo guare aquí mi evita ni huellan tu fameo. Amule pein caun. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. C'est une chanson interprétée par Ana Tirou, Rebellion de Octobre, qui fait complètement écho à votre livre, Carmen Castillo. C'est une chanson de mémoire contre l'oubli et pour la résistance.
Voilà. Cette Ana est fille d'exilés du MIR en France.
Alors le MIR, il faut expliquer pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas été mis au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est dans ces années 70 au Chili, mouvement
Oui, c'est le mouvement de la gauche révolutionnaire, une organisation, un mouvement révolutionnaire très particulier de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Ana est la beauté, Ana est la posture, Ana chante le soulèvement d'octobre 2019, dans lequel les esprits des morts, nos morts, sont venus accompagner les vivants, la jeunesse qui se soulevait, et dans ce soulèvement, dans cette révolte, la présence des chanteurs, des chanteuses, de Ana, Iyapu et d'autres, Victor Jara, chantant la dignité, jusqu'à ce que la dignité se fasse habitude. Et ça, c'est très beau. Ana est aujourd'hui présente ici, en Europe, en France, à Barcelone et au Chili. Donc c'est aussi l'exil partout.
Alors vous, je ne sais pas si on peut dire de vous, Carmen Castillo, que vous êtes une exilée. On peut dire que vous êtes une rescapée du coup d'État qui a suivi donc la destitution et l'assassinat du président Salvador Allende. Vous avez vécu toute votre enfance, votre adolescence et vos débuts d'âge adulte à Santiago. Vous étiez professeur,
oui.
Puis petit à petit, si j'ai bien compris, vous êtes orienté vers une sorte de citoyenneté engagée. De professeur, vous êtes devenue conseillère du président, conseillère de la fille du président, Salvador Allende. Comment s'est passée cette transition entre les années de professorat et l'engagement plus politique ?
Et en réalité, je n'ai jamais arrêté de faire les cours et la recherche en histoire d'Amérique latine contemporaine à l'université. Donc j'avais deux casquettes au moment où Béatrice Allende, mon amie qui m'a initiée à la politique à l'âge de 15 ans, m'invite à participer avec elle dans justement l'attention particulière que le gouvernement Allende offrait aux exilés, aux réfugiés, des combats qui se donnaient au Brésil, en Argentine. Et donc, nous avions beaucoup à faire depuis ce palais de la Moneda, Allende entouré de femmes. Et j'ai pu, donc, vivre à l'intérieur un moment. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai choisi de retourner vite à mes labeurs de prof que j'adorais, que j'adore encore dans les ateliers que je fais même en France, dans les lycées, ou enfin, et à la recherche. Mais ma destinée, effectivement, a été prise dans la destinée de tous ceux qui, par l'engagement amoureux, affectueux de cette société entière en état amoureux qu'étaient les 1000 jours d'Allende, se retrouvent devant le coup d'État. Donc, comme dit César Vallejo, il y a des coups, je ne sais pas, ça tombe, non ? Le noir, l'ombre, la nuit, le massacre. Mais nous, on était des militants, on était à visage découvert, on était un mouvement inscrit partout, très présent dans la culture, très présent dans les populations et dans les paysans. Nous n'étions pas un appareil armé, on ne pouvait pas partir, se réfugier dans les ambassades. On devait rester. Et nous sommes donc passés dans la clandestinité.
Où étiez-vous ce matin-là du coup d'État contre Salvador Allende ? Vous racontez dans ce livre bouleversant, Carmen Castillo, à quel point la population a été sidérée par ce coup d'État, à quel point personne n'y a cru. Et vous, vous étiez où ? Dans cette petite maison bleue que vous décrivez ?
Nous étions déjà depuis juin, où il y avait eu les prémices d'un premier coup d'État. Nous vivions déjà dans la clandestinité, dans une maison verte, pas loin de la maison bleue de la clandestinité féroce. Et nous vivions une vie ordinaire avec des enfants, des faux papiers. Donc j'étais là. Nous avons pu rester ce 11 septembre là. Nous pensions que le 10 septembre, Allende avait raconté à Miguel Enriquez, mon compagnon devenu chef de la résistance au Chili, que on allait faire un référendum, annoncer le référendum qui appelait la société chilienne, la population, à voter le maintien du gouvernement ou pas. Et bien sûr, les militaires le savaient, l'ambassade américaine le savait, la bourgeoisie le savait, ils ont avancé le coup d'État pour le 11. Ils voulaient le coup d'État. Ils voulaient arrêter net cette extraordinaire émancipation, rêve éveillé qui était de construire une société démocratique et socialiste. Cela était possible, ce n'était pas un impossible, ce n'était pas une provocation. C'était le pari d'Allende, et il en est mort, il s'est suicidé pour la démocratie. Le suicide d'Allende, c'est ça. J'appelle, je dis, un jour, vous allez ouvrir Las Grandes Alamedas, la grande rue. Et c'est vous, vous le peuble, les travailleurs, qui allez l'ouvrir, parce que la démocratie ne meurt pas. Et c'est ce qui s'est passé, là, pardon de ces raccourcis du temps, mais c'est comme ça l'histoire, c'est comme ça la mémoire, avec l'élection du jeune Gabriel Boric et la victoire face au fascisme.
Donc en décembre dernier, en décembre 21.
Voilà, nous avons vu les Alameda qui venaient à être occupés, habités par le mouvement social, par les femmes, tout d'un coup, là, avec tous les symboles, de ce passé qui est toujours actif, qui n'est pas nostalgique. Donc j'étais là, dans cette petite maison, je balayais la rue, il n'y a pas eu de dénonciation, c'était un quartier populaire, et nous avons écouté le dernier discours d'Allende à la radio. On brûlait des journaux, des choses, puisqu'on voyait déjà les images, et surtout, on voyait l'or, cette population qui fuyait, sidérée. La sidération. Le coup a été une sidération. Oui.
Je vous propose d'écouter le dernier discours de Salvador Allende qui s'adresse pour la dernière fois par radio à son peuple. C'est une archive INA du 11 septembre 1973.
Mardi 11 septembre 1973. Du palais de la Moneda assiégé, Salvador Allende s'adresse pour la dernière fois par radio au peuple chilien.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales.
Placé dans un moment historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple et je leur affirme que la semence que nous avons déposée devant la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra être définitivement étouffée. Ils détiennent la force, ils pourront asservir, mais ils ne peuvent pas transformer la société par le crime et par la force. L'histoire est à nous et les peuples la font eux-mêmes.
Salvador Allende, vous venez de le dire, Carmen Castillo s'est suicidé par esprit démocratique.
Pour la démocratie. Un acte de courage énorme. Il l'avait toujours dit. D'ici, je partirai pas. Je prendrai pas l'avion. Non, ici, je reste. Et il demande aux femmes de sa vie, qui étaient là autour de lui, entre autres à Béatrice, qui est une des dernières à quitter le palais de la Moneda, de emmener, pour la convaincre, lui donne une mission, la mission d'aller parler au monde entier. Ça prend du temps, ces petites graines, ça a coûté tellement de vie, ça a été l'imposition d'un modèle économique de Chicago Boy qui a créé une société néolibérale parfaite, d'une cruauté innommable jusqu'à maintenant. Donc, parfois, c'était difficile d'entendre ces derniers mots. Dans ces derniers mots d'Allende, ça a été mal traduit, parce que lui, il dit pas « s'ouvriront », il dit « les travailleurs ouvriront, les peuples du Chili ouvriront ». C'est une action face à la douleur, c'est une action face à, en un sens, des souffrances. C'est le combat de la mémoire des vainqueurs qui déclarent et pour longtemps, même en démocratie, l'oubli, l'amnésie, et de la persistance des mères, des femmes, des disparus, des souffrances qui surgissent, qui font des récits et qui disent non, on ne peut pas oublier, c'est bête d'oublier. Et c'est dans cette ligne-là de travail de ramener des fragments de mémoire que j'ai écrit pour vous Laure Adler et mes amis français, ce récit en la fin des années 70. Je voulais dire qu'on n'était pas des héros, qu'on était des personnes comme tout le monde et que la vraie politique était faite par des personnes comme tout le monde qui prenaient la parole et qui agissaient pendant les 1000 jours d'Allende. C'était ça, une vraie politique démocratique. Et oui, Allende est mort pour ce projet qui n'était pas une utopie. C'était une réalité réelle, possible. Ce qui s'est passé, c'est que la contre-révolution, ou les pouvoirs, ou plutôt pour le dire simplement, la haine de l'égalité, des puissants, alliés tous, là, dans une bonne stratégie politique, a voulu écraser, massacrer ce projet, ce rêve, qui est un rêve éveillé, donc on vivait. C'est cette haine-là qui emmène l'obscurité, les temps sombres, les massacres, comme aujourd'hui on le voit dans ce que nous vivons. C'est ça, c'est la haine de l'autre. Et cette égalité que nous vivions pendant Allende et que nous avons vécu aussi pendant le moment du soulèvement, ce n'est pas qu'on soit tous égaux, on est tous différents. Tout simplement, c'est la conscience que l'égalité est un principe et quelque chose qui se conquiert jamais. Mais on la pratique. Et en la pratiquant, il y a la transversalité et c'est cette beauté d'une démocratie en action. En conflit, bien sûr, en dispute, bien sûr. Tout ça, c'est normal.
Ce livre est un livre nouveau. Parce que vous l'avez rappelé, vous l'aviez publié après, quand vous êtes devenu une exilée en France. Il s'intitule « Un jour d'octobre à Santiago ». Mais celui qui sort ces jours-ci est un livre nouveau parce qu'il y a deux livres. Il y a « Un jour d'octobre à Santiago », puis ensuite un autre livre de vous que vous avez publié plusieurs années plus tard, « Ligne de fuite ». Oui. Et ces deux récits, tous les deux encastrés, si j'ose dire, dans une temporalité différente, sonne aujourd'hui comme une sorte d'alarme vis-à-vis, justement, de cette démocratie qui est extrêmement fragile, qu'il faut savoir combattre tout le temps, justement, ces sombres temps que nous traversons par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ce sont deux textes qui parlent de la dignité des femmes et des hommes. Et je voudrais revenir à une femme dont vous restituez admirablement la dignité dans ses pages, un jour d'octobre à Santiago, c'est la sœur de Salvador Allende.
Oh oui.
La sœur de Salvador Allende, quand elle apprend par la radio, comme tout le monde, ce jour d'octobre à Santiago, que finalement le palais de la Moneda est envahi, que son frère doit être au cœur de ce palais, qui va peut-être mourir, elle en a rien à faire. Elle part à pied. Et elle va persuader les gardes, et elle va passer à travers les chars et les tanks, et elle va rentrer.
Laura Allende est une des femmes oubliées de l'histoire du Chili, comme Béatrice Allende. Béatrice, parce qu'elle s'est suicidée, et parce qu'elle était vraiment le visage révolutionnaire du président, qui avait deux visages. Laura était une femme d'une beauté élégante. Elle a été élue députée. Elle passait sa vie dans les bidonvilles avec les prises d'occupation de terre. Elle a été jusqu'à être arrêtée dans des camps de relégation parce que on cherchait Miguel et qu'elle était très proche de Miguel Enrique et de nous. Son fils était dirigeant du MIR aussi, de la résistance. Et Laura, dans chaque moment de sa vie, ce courage et cette empathie, cet affect. Elle avait la dignité du courage, des humbles, parce qu'elle était portée par, oui, pourquoi pas le dire, par un amour politique, pas un truc compassionnel, par une action politique, mais accompagnée d'affect. Et cet affect était tendresse, fermeté, rigueur. Elle aussi, elle va se suicider.
Et vous, vous n'avez jamais eu cette tentation. Mais vous avez failli mourir. Parce que après que votre compagnon, donc, ait été fusillé, mais vous ne le savez pas au moment où cela se passe, vous ne savez pas que il a disparu dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il faudra beaucoup de temps pour que vous puissiez d'une part le savoir et d'autre part comprendre que c'est arrivé. Vous, vous êtes enceinte.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe là?
Donc,
excusez-moi si je vous pose des questions très dures, peut-être.
C'est important parce que, comme on disait, le passé n'est jamais figé, n'est jamais écrit, n'est jamais défini. Les mémoires bougent avec le temps et les souvenirs qui vieillissent pas, mais qui ont été enfouis, ressurgissent comme au premier jour, tout net, très clair. Et donc, oui. Ce samedi 5 octobre 1974, l'homme que j'aimais résiste aux forces militaires très fortes en nombre pendant 1 heure et demie seul. C'est un combat. Un combat pour la vie. Miguel Enríquez aimait la vie, tout de la vie. Les enfants, il voulait être un style des enfants, et les récits, la littérature, la poésie, enfin c'était... Avec tout ça, il faisait de la politique, il pensait la réalité, il agissait. Il est mort en ayant une quantité énorme de projets raisonnables. Il n'était pas du tout dans le sacrifice ou le culte à la mort. Donc le combat était après pour moi, qui survivante, parce que, comme dit Charlotte Delvaux dans sa trilogie magnifique, elle m'a beaucoup aidé, Charlotte Delvaux, à comprendre la sidération et aussi ce que moi j'appelais la trahison, c'est-à-dire la non-mémoire, l'oubli. On oublie pour pouvoir survivre. Et effectivement, j'ai enfui les douleurs qui me tuaient et j'ai frôlé ce désir, cette pulsion de mort quand on est envahi par les souvenirs, grâce vraiment d'abord à l'acte politique de dénonciation du culte à la mort et au sacrifice et de l'exil de Béatrice Allende, mon amie. Elle l'a fait, elle m'a empêché de le faire. Et surtout, lors, j'ai compris que la survie, c'était la mort en sursis. J'ai appris en travaillant, et je m'avance peut-être, mais dans la première boutique Agnès B, j'ai eu le privilège, la chance de ce croisement de pensées, d'actions et d'affects, d'amitié, qui m'ont permis petit à petit de réapprendre la langue à parler. Donc, bien sûr, certaines douleurs comme l'enfant qui va mourir plus tard après sa naissance dans une maternité de Cambridge seule. Ça, c'est enfui. Donc, je me pose la question aujourd'hui de l'instinct monstrueux de la survie. Qu'est-ce qui fait que quand même, pour survivre, on silence? Et ça, le problème, c'est pas seulement nous qui silençons, c'est nos enfants. C'est-à-dire tous ceux qui ont traversé des douleurs et la Shoah, on est plein de ces récits de silence. Mais ces silences provoquent une transmission compliquée. Certains disent radioactives, c'est-à-dire malgré que moi, je pensais que ma fidélité aux morts était dans ce dialogue permanent avec ces êtres, ces femmes et ces hommes qui me faisaient pas peur, parce que je considère ça une richesse énorme, et comme dit John Berger aussi, qui m'a tellement aidé, les morts ne restent jamais là où on les a enterrés. Donc ces esprits m'accompagnaient, mais il fallait tout simplement peut-être raconter, faire des souffrances, des récits. Et il y en a eu des zones d'oubli, oui.
Les morts sont vivants à l'intérieur de votre texte, Carmen Castillo, et vous leur rendez un vibrant hommage. Et puis, il y a aussi autre chose que vous ne mentionnez pas, tellement vous êtes modeste, même pas dans votre livre, mais je le sais, moi, c'est qu'il y a eu une campagne internationale pour vous sauver, pour vous sortir de la prison où vous avez été mise et humiliée, torturée alors que vous étiez enceinte. Cette campagne internationale a eu de l'effet puisque vous avez pu sortir du Chili, arriver en France. Et là, vous avez mentionné donc Agnès B. C'est là, bah, je peux peut-être le dire parce que je suis pas la seule à vous avoir rencontré pour la première fois. Vous étiez vendeuse chez Agnès B. à Paris, dans un endroit qui était près du Trou des Halles à l'époque. Et vous avez eu et reçu beaucoup de solidarité de la part des Français. Et on a l'impression que, effectivement, petit à petit, la possibilité de construire un récit et de sauvegarder votre mémoire, mais pas seulement votre mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective de vos sœurs et de vos frères qui étaient engagés dans ce mouvement révolutionnaire, vous ont peut-être guidé à mettre des mots sur ce qui vous hantait dans votre cerveau, non ?
Oui, ce lieu est un lieu inimaginable aujourd'hui. La France qui nous a accueillis, vous pensez, en France, il y a eu 600 000 membres actifs des comités Chili partout en France. Donc nous avons vécu une France qui accueillait la solidarité mondiale, devenait notre foyer. Parce que les exilés, les réfugiés d'hier comme d'aujourd'hui, qui ont tout perdu, qui ont perdu le foyer, ce lieu qui connecte la terre des morts avec le ciel, donc avec les esprits, ne peuvent constituer un foyer qu'à partir de la solidarité mondiale. Et ça, je l'ai connu personnellement, mais tous les Chiliens l'ont connu, arrivant en France et à d'autres destinations. Ce privilège-là, de pouvoir être accueilli, de pouvoir être écouté. Comme moi, j'aimerais comprendre les langues soudanaises pour écouter les récits de ceux qui sont dans mon quartier du 18e qui arrivent. Écouter donc ces récits, ces souvenirs, ces pays, pour construire ce qui devient la langue, effectivement, une sorte de patrie. L'exil devient à force une sorte de terre, une terre nouvelle. Et effectivement, c'est grâce à ces amitiés, je voudrais tellement les nommer chacun, chacune, grâce à la pensée, parce que dans ce lieu arrivait Gilles Deleuze, Fanny travaillait avec nous, arrivait Félix Guattari, arrivait Jean-René avait travaillé à la Borde, arrivait des malades de la Borde qui étaient des êtres normaux, il y avait des oiseaux en liberté, il y avait les féministes qui arrivaient, il y avait un monde qui se croisait, et les chansons. Et puis voilà, moi j'étais là, très en silence, préservée dans un anonymat qui était totalement indispensable pour passer de la caricature de ce qu'on avait été à quelqu'un qui réapprenait à vivre. Toutes ces personnes sont pour moi ma famille. Et quand je suis au Chili et que j'ai la chance de revenir et de passer des longs moments, le fait d'être française et chilienne me permet de faire des passerelles, non ? Et de raconter des histoires, des points de vue et des pensées, et vice-versa. J'aime tellement dire, une fois que je suis là-bas, cette paradoxe qui est de dire « j'aime mon exil ». Et le dire parce que l'exil, quand on l'a vécu comme ça, n'importe quelle personne qui le vit, c'est pas une volonté d'être exilé, on est expulsé du pays, on est expulsé, on a l'interdit de retour. Mais après, si on le vit tout simplement avec les aléas de la vie normale, ça devient sacré, c'est ma vie. Et j'ai passé la plus grande partie de ma vie, aujourd'hui je peux dire plus de la moitié de ma vie, en France. Donc j'emmène avec moi dans mes différents visages, dans la multiplicité de masques que j'ai pu utiliser, enfin, c'est pas grave tout ça, c'est multiple. Ce qui importe, c'est de reconnaître les paradoxes, hein, et de dire oui, j'ai appris, je suis revenu à la vie, la Renaissance, je l'ai vécue, je l'ai connue, là, dans ce lieu.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Carmen Castillo, Violeta Parra.
Ya se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, que caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Mais nous avons dû apprendre à brosser l'histoire à rebrousse-poil, car notre siècle obscur s'est achevé dans la débâcle des espérances en un monde meilleur qu'il semblait promettre. Il laisse dans son sillage un amoncellement de désastres et de ruines. Nous y avons laissé pas mal d'illusions et de certitudes. Nous qui étions pressés, nous avons dû nous plier à la rude école de la patience et apprendre la lenteur de l'impatience. Changer le monde apparaît comme un but non moins urgent et nécessaire, mais autrement plus difficile que nous l'avions imaginé. Dans les moments de lassitude et d'abattement, on arrive à se demander si le combat en vaut encore la peine. On se console parfois en se disant que la révolution est la seule forme de guerre dans laquelle la victoire finale doit être préparée par une série de défaites. À franchement parler, on ne dédaignerait pas de temps en temps quelques victoires. Plus que jamais, notre engagement est un pari incertain. Un pari ordinaire chaque jour recommencé. Celui que font en toute simplicité des milliers de militants syndicalistes, associatifs, politiques de par le monde. Par loyauté envers eux, quand on est embarqué, c'est pour longtemps. On n'a pas le droit de jeter l'éponge, de se rendre à la moindre lassitude, au moindre accident de parcours, à la moindre et pas même à la pire déception.
Nous venons d'entendre Violetta Parra et puis tout de suite un court extrait d'un de vos films. Car Carmen, vous êtes aussi cinéaste, vous avez signé de nombreux films. Celui qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre un court extrait, s'intitulait « On est vivant », il date de 2015. Vous avez fait aussi un film plus récent qui s'intitule « Chili 1973, une ambassade face au coup d'État » où vous décriviez ce qui s'était passé pour votre famille et vos proches après le coup d'État où de nombreuses personnes ont été hébergées à l'intérieur de cette ambassade de France. Vous êtes allé très récemment au Chili, d'où vous revenez, il y a moins de 15 jours. Mais je voudrais revenir à ce premier retour. Après donc 13 années, je crois,
oui.
Vous apprenez, qui donne justement le titre de ce second opus qui est publié dans ce volume, Ligne de fuite, vous apprenez que vous êtes autorisé à revenir dans votre propre pays. Et dès que vous l'apprenez, vous n'avez qu'une furieuse envie et en même temps une angoisse, c'est d'y partir. Et au moment où vous arrivez sur votre terre, vous ne reconnaissez rien. Ce n'est plus votre pays.
Oui. Ligne de fuite est un récit écrit comme ça, très vite, accompagné par, à l'origine, Bernard Barrault et Betty Mialet, qui le publient. Et je ne pouvais pas, en 1987, dans cette petite autorisation de retour, voir autre chose que des collaborateurs, des assassins, des tortionnaires. Et pourtant, ma mère, qui était elle une résistante active, me force à aller voir dans les poblaciones, dans les quartiers populaires, où je touche un peu à cette vitalité d'une mémoire cachée, secrète, de ce pacte secret. Ce récit, aujourd'hui, me semble un cri de vérité de ce qui peut provoquer ces retours longtemps après pour nous, quand cette société est devenue une société de l'argent, avec l'arrogance de vainqueur, avec l'amnésie imposée, la non-justice, la non-vérité, enfin c'était... Et la peur, j'avais peur, le menace était là, les généraux étaient là, les tortionnaires étaient là, et n'en parlons pas de ceux qui dirigeaient le pays, les civils. Donc oui, mais le temps a passé. Et comme vous le rappeliez dans mon dernier film, mais surtout Rue Santa Fe, au moment où le désir de raconter justement la résistance m'est venu, ce sont les actes de bien. Tout d'un coup, ce pays a commencé à se peubler par mes voyages dans le désert d'Atacama avec Sylvie Blom, par le sud avec dans les régions Mapuche, petit à petit à se peubler, à nouer des amitiés et à me dire, Carmen, tu ne sais rien. Là, le combat, la dispute des mémoires est un enjeu politique fondamental pour exiger vérité, justice, non-répétition, que jusqu'à aujourd'hui, les familles demandent, avec encore des prisonniers politiques du soulèvement. Donc tout cela est toujours présent. Et dire un jour, peut-être c'est le temps, mon âge, le passage du temps, mais surtout l'éveil du peuple, c'est-à-dire avoir la chance, à mon âge, d'avoir vécu les années de grandes visions utopiques à l'échelle de nos vies, on allait faire la révolution les années 60-70, avoir vécu la défaite totale de notre religion, de l'histoire que raconte On est vivant avec Daniel Ben Saïd, donc la fin de notre monde de progrès, et maintenir le pari de l'engagement politique et vivre le soulèvement octobre 2019 et la victoire électorale de Gabriel Boric qui ramène les morts, les esprits. Bon, mais je suis très 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 privilégiée d'avoir pu voir tout ça, de avoir la matière, l'histoire qui me dit, mais on a raison de ne pas céder à la fatalité. On a raison de toujours chercher à créer le champ des possibles. Malgré les temps obscurs que nous vivons ici, il y avait chez vous l'autre soir Didier Huberman et Marie-Josée qui parlaient justement d'ouvrir le possible quand il n'y a pas. Donc mon travail de cinéaste ou de récit, ça a été toujours ce désir de dire, voilà, c'est nous qui faisons l'histoire et de rappeler ce qui était une évidence pour ma génération, malgré les caricatures qu'on a pu dire, les stéréotypes qu'on a pu dire de nous. Nous, on était la fraternité, on était la solidarité, on était les affects, on était l'éveil de l'intelligence et des émotions, comme je dis, notre génération. Et c'est ça que j'ai revécu avec les jeunes et les féministes et le mouvement des femmes au Chili maintenant. Donc, ça donne de l'air, quoi. Ça fait un petit point de lumière et d'espoir. Avec ce principe, avoir l'espérance dans le passé, c'est paradoxe, c'est-à-dire penser le présent avec le passé et non pas être collé dans la nostalgie. Et ça, j'ai pu le faire ici, je l'ai appris ici.
Je vous propose d'écouter un reportage de TV5 Monde daté du 12 mars 2022 à propos de l'investiture du nouveau président chilien Gabriel Boric.
Après avoir prêté serment devant un parterre de hauts dignitaires internationaux, Gabriel Boric reçoit l'écharpe et l'insigne présidentiel des mains du président sortant, Sebastián Piñera. À 36 ans, il entre dans l'histoire comme le plus jeune président de l'histoire du Chili. Sans cravate, comme à son habitude, Gabriel Boric et sa compagne, nouvelle première dame, Irina Karamanos, ont pris la direction de la place de la Constitution. Pour la première fois, c'est une femme qui conduit la voiture présidentielle. Un féminisme dont les effets se font sentir au sein du nouveau gouvernement. Sur les 24 ministres, 14 sont des femmes et occupent les postes régaliens comme l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Le message est clair, la gauche progressiste est de retour.
Vive le Chili ! Le pays doit se lever, croître et distribuer équitablement les fruits de la croissance.
Mais au-delà des symboles et du sociétal, l'ex-leader étudiant et député depuis 2014 soulève les espoirs d'un peuple qui a avant tout soif de justice sociale. Car si la stabilité de l'économie chilienne est saluée, selon l'ONU, 1% de la population possède 26% des richesses. Un fossé responsable des révoltes de 2019.
C'est possible de transformer ce pays pour parvenir à l'équité, à une meilleure répartition des richesses et à une société plus juste.
C'est le changement que tous les citoyens souhaitent. Je place beaucoup d'espoir dans ce gouvernement.
Un gouvernement qui, selon les experts, devra composer avec un Parlement loin d'être acquis à sa cause. Face à la méfiance des élus radicaux de droite et de gauche, le plus dur reste à faire pour financer l'État-providence promis.
Vous aviez décidé, Carmen Castillo, d'aller filmer dans votre propre pays pour des raisons familiales, des raisons personnelles, des raisons de mémoire aussi. Et puis est arrivée cette élection. Et Boric a été donc élu. Ce n'est pas pour autant que finalement les héritiers du pinochettisme sont assoupis.
Mais
ils existent encore bien à l'intérieur de l'échiquier politique.
Oh, mais 44% de vote des électeurs ont voté Caste, qui est le Pinochet d'aujourd'hui, fasciste, le néo-fasciste d'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il faut les nommer. Et Boric a gagné dans ce deuxième tour parce que la mémoire des vaincus, parce que les souffrances et parce que la joie, l'espoir et les conquêtes sociales sous le gouvernement Allende ont été mis dans la dispute.
Le nom de Salvador Allende est revenu dans le débat public.
Oui, entre les deux tours. Parce qu'avant, on avait peur. 30 ans de gouvernement socialiste et autres, la concertation, on avait peur d'Allende. On avait peur voilà, il s'agissait de gouverner dans le consensus, etc. Là, c'est-à-dire que pour la société, surtout, le vote Boric a été 1 million de votes, ce qui a donné la victoire, d'abstentionnistes, entre lesquels la grande majorité, selon les études, étaient des femmes de moins de 30 ans populaires, qui ne votaient pas, qui croyaient pas aux élections. Dans cette émergence de la conscience de ce qu'est le pinochetisme, le fascisme pour la vie des personnes, pour la vie des femmes, ce qui s'est impliqué aussi pour l'histoire, pour les morts, pour la justice, ben on a gagné. Donc maintenant, tout ce qui vient, j'en sais rien, les difficultés sont énormes, mais ainsi comme je racontais au moment du soulèvement, que le soulèvement, la révolte n'est pas la révolution, et que ce qui se passe là, c'est en soi quelque chose de fondamental. Ainsi, un gouvernement d'aujourd'hui, avec parité des femmes, avec 7 ministres issus de l'exil, et 3 ministres ayant fait ses études à Cuba. C'est ça le nouveau gouvernement. Mais tout est à écrire, tout est à faire, et on doit continuer à gouverner avec le mouvement social, avec les demandes des gens, pas perdre de vue que c'est la manière, encore une fois, les mots respect, dignité, affect, écoute, dialogue, qui permettront que ces réformes urgentes pour que les gens puissent vivre mieux dans un pays qui est inégalitaire comme dans les 3 premiers, il y a le Chili. Tout est à faire, mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Parce que lui aussi, et son équipe, et cette jeunesse n'est pas la caricature de ce que nous avons été, ça c'est à bannir. Ils inventent, mais avec les morts, mais avec le passé, pour pas répéter, mais sans les oublier. C'est comme si j'avais vécu ce temps-ci, que toutes ces luttes pour la justice, la démocratie, l'égalité au sens dont on a parlé, sont aussi des luttes pour sauver les morts.
Et vous, Carmen Castillo, vous republiez donc ces deux textes sous le titre « Un jour d'octobre à Santiago ». Donc il y a « Un jour d'octobre à Santiago » plus « Ligne de fuite ». L'histoire, votre histoire, est encore en avant de ce récit. Ces deux récits sont des textes magnifiques et très tendus et universels. Ils dépassent la tragédie du Chili parce que ce sont des textes sur la mémoire, sur l'histoire, merci, sur la volonté de ne pas oublier. Est-ce que vous êtes, après la réédition de ces textes, est-ce que vous êtes un peu en accord avec vous-même ? Moins chamboulé par le désordre du temps et de cette mémoire qui chavire à tout moment.
L'intranquillité, comme dit Pessoa, qui nous habite, c'est pour toujours et tant mieux. Ces livres, ce sont un cadeau de l'amitié de ces extraordinaires écrivains Joseph Andras et des éditions Verdier. Donc, je les ai parcourus, les épreuves, et je me disais, mais quel Carmen a écrit ça? Il y a tellement de Carmen dans ma vie qui m'ont fait tellement de pertes, et je pensais, avec l'extraordinaire agencement de l'émission, le chant de Violeta Parra, qui parle de l'esprit des enfants morts au Chili, de la croyance profonde que ces esprits sont des étoiles, comme disent les Mapudungun, en tout cas qui sont avec nous, qui relient les mots du Kaddish, comment moi je suis tout le temps en construction justement, parce que je prends ça et ça, et devant les temps sombres, je me dis, espérons que ces petites choses qu'on fait puissent être comme des éclairages, de qu'il est possible, de que la vie... Oui, que la mémoire fait face au néant. C'est tellement mieux de vivre dans la compagnie des morts. Non pas d'une manière morbide, ou qu'on vient me dicter, ou coupable, mais dans cette espèce de temps mélangés, parce qu'il n'y a pas de temps linéal comme prétend l'économie. C'est vraiment des temps, la disruption de l'histoire, l'événement vient là pour rappeler que les temps se retrouvent. Ce nous, c'est ça qui s'est passé avec le soulèvement. Bon. Moi, je suis maintenant en train de travailler toujours, me dire, bon, il faut que je raconte cette histoire. J'ai besoin de raconter cette histoire, à me poser les questions, mais pourquoi les raconter? Est-ce que ça a un sens pour autre, pour d'autres que pour moi? Penser la politique, à essayer de me placer là où je peux pour agir. Je suis en ce moment en train de faire un atelier au lycée Jacques Prévert à La Courneuve et je suis si heureuse de pouvoir donner quelque chose ou faire avec des profs de 28 ans, 30 ans extraordinaires, quoi. Parce que là, c'est comme ça que pour moi, l'espoir est quelque chose de, comme disait John Berger, que je mastique entre les dents. C'est au présent, avec des vies comme ça, qui me donnent la chance de rencontrer d'autres. J'ai aussi le privilège de pouvoir faire des films en France, avec, bien sûr, cherchant des productions et des complices chiliennes avec qui j'y vais, mais j'aime beaucoup dire un mot qui me vient souvent maintenant, c'est gratitude. Je suis emplie de ces gestes de bien qui sont plus violents, plus forts et plus importants que le mal. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu le Chili finalement. En retrouvant mon voisin qui m'a sauvé la vie, un être anonyme, j'ai vu la force du geste de bien, la force des gestes de résistance, des gestes de courage. Et avec ça, tout s'éclaire autrement.
Ben merci beaucoup, Carmen Castillo. Je rappelle le titre de votre livre, Un jour d'octobre à Santiago, qui vient de paraître aux éditions Verdier.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud que la terre sourit, que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe.
Et c'est avec Émilie Loiseau, celle qui vit vers le sud, que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr, Lilian Allôme, qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.